Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On enchaîne avec le GG et vous. Alors, qui va y avoir droit? Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie, monsieur Maxime Liedo, étudiant, monsieur Étienne Liebig, éducateur. Je vous dis ça tout de suite. Dès que c'est à l'écran et que je sais précisément qui veut interpeller qui, c'est Pierre qui veut interpeller Maxime Liedo. Donc, extrait de Maxime d'abord.
Pour moi, ce qui est choquant, c'est qu'on puisse se poser la question de savoir si on va l'autoriser au couple lesbien, homosexuel. Oui. Déjà, c'est honnêtement cette question qui me choque. Je parle de la valeur de la soi-disant de la tradition de la famille père-mère, c'est relou. C'est un gars, il faut arrêter. Une famille aujourd'hui, ça peut être deux pères, deux mères. Il y a rien de choquant. Il y a des enfants qui se portent très bien.
Pierre, bonjour. Bienvenue, Pierre. Bienvenue sur RMC dans les GG. Alors, allez-y, Maxime,
bonjour.
Vous écoute.
Bonjour à vous.
Bonjour,
Pierre.
Bonjour,
Maxime. Bonjour Maxime,
bonjour.
Vous m'entendez?
Oui, bien sûr, très bien, bonjour.
J'en profite pour la 8e fois pour postuler pour un jour faire partie de cette famille des grandes gueules.
Hein. Il y aura un casting à la rentrée, on va vous annoncer ça là, ouais. Très bientôt.
J'étais venu il y a 4 mois avec mes élèves et j'avais eu l'occasion de me présenter sur le plateau pour discuter juste avec Maxime.
Exact.
Et donc, je reviens donc ici encore une fois avec Maxime, désolé.
Il le cherche.
Sur ces propos qui m'ont choqué. À la fin des années 90, Elisabeth Guigou nous avait promis Pax et pas de PMA. Maintenant, on nous promet PMA, pas de GPA. Je pense qu'on nous ment, comme d'habitude. Concernant vos propos, Maxime, moi, ils m'ont heurté, ils m'ont choqué dans mon histoire personnelle. C'est un peu particulier, mais bon, j'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans. Et j'ai toujours ressenti un manque. J'ai été élevé uniquement que par ma mère. Et excusez-moi, mais du haut de vos 21 ans, et moi, du haut de mes 37 ans, je ne vois pas comment on pourrait changer l'évolution de l'humanité. Un père, une mère, c'est fondamental dans l'esprit d'un enfant. Alors bien sûr, il y a des loupés, il y a des parents qui divorcent, il y a des parents parfois qui disparaissent, comme moi avec mon père. Mmh. Mais on a toujours ce besoin de savoir d'où on vient, qui on est, son arbre généalogique. Et excusez-moi, mais légaliser cette hérésie, c'est ignoble. Avoir un enfant, ce n'est pas un bien de consommation. On n'achète pas une télé comme on achète un enfant.
Non,
mais... D'accord. Et excusez-moi, mais moi, ça me choque. Mais je m'en fais pas pour vous, Maxime, et vos idées, parce que je sais très bien qu'avec la puissance médiatique, vous gagnerez. Vos idées gagneront. Vous allez gagner. Mais moi, franchement, je suis choqué. Moi, maintenant, je suis père. Et ben, je vois très bien que ma femme n'a pas le même rôle que moi, vis-à-vis de mes enfants. C'est pourtant, je fais le ménage. Hein. Je fais le ménage, je fais la vaisselle. Ça n'a rien à voir avec le du sexisme.
Ça m'arrive, c'est déjà une erreur. Hein,
on a une relation différente. Et légaliser le fait qu'on ne veut pas d'un père ou on ne veut pas d'une mère, excusez-moi, je trouve ça choquant.
Alors Pierre, réponse de Maxime.
Il y a plusieurs choses. Ça mériterait un long débat, mais tentons d'être bref. Déjà, pour le côté vos idées gagneront, je pense que la majorité des idées que je promeus en permanence dans cette émission sont loin d'être gagnées, sinon la France n'en semblerait pas à ça.
Donc voilà.
Vas-y.
Barbara, on a presque les mêmes idées, donc.
Vas-y.
Ensuite, pour la conception que vous avez, je comprends la vision que vous avez grâce ou à cause de votre histoire personnelle. Mais je pense que ce qui vous a peut-être manqué, sans faire de la psychologie de comptoir, c'est en fait l'environnement d'une famille dans son entièreté, c'est-à-dire d'avoir deux membres adultes permanents. Je pense aujourd'hui que c'est totalement vivable, totalement sain, totalement possible qu'un enfant grandisse avec
la PMA pour les femmes seules, alors.
Et deux mamans. Mais ça,
la PMA pour les femmes seules,
on va pas refaire un débat dans
une phrase, Maxime.
De quoi ?
Allez-y, Pierre.
Juste une phrase. Je peux pas aussi faire de la psychologie de supermarché, mais sincèrement, Maxime. Deux pères ou deux mères ne peuvent pas avoir le même rôle qu'un père et une mère.
Mais pas du tout. Par exemple,
ça fait des millions d'années que ça existe.
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Qu'il y ait un papa ou une maman, je connais des gens homo qui ont un enfant. Je connais des. Ouais, écoutez, ça se passe très bien et ils n'ont pas le même rôle. C'est pas parce que ce sont deux femmes et deux hommes que au sein de l'éducation ils vont avoir le même rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je critiquais également dans l'espèce de discours que j'ai fait en disant que c'était un peu ringard dans le sens où il faut arrêter d'avoir ça comme posture politique en disant que c'est ça qui va sauver la France, comme si le modèle familial c'était tout ce qu'il y avait à sauver en France. Je pense qu'il y a des millions de choses à corriger, à sauver en France, que l'obsession vraiment d'avoir un papa, une maman. Je pense qu'un couple homosexuel, un couple de deux hommes, un couple de deux femmes peuvent élever un enfant dans une plus grande sérénité, dans le plus grand bonheur, en ayant tous les deux, même en étant deux femmes, deux hommes, des rôles totalement différents et l'enfant s'en sortira très bien. C'est ma pensée, c'est pas la vérité, il n'y en a pas, mais c'est ce que je pense. Oui, mais vraiment... je parle avec les tripes, je suis persuadé que ça peut être ça. Et si on peut légaliser en France pour qu'il y ait plein de familles qui puissent l'avoir, moi, ça me va totalement, je signe.
Voilà Pierre, ça sera une divergence de fond entre Maxime et vous.
Oui,
mais le débat ne fait que commencer, hein, puisque le débat sur,
le problème, c'est qu'il est
sur la PMA, il va arriver.
Parce qu'on sait très bien que cette majorité va faire voter ce projet comme elle le souhaite depuis le début. Donc le problème, je suis désolée, mais le débat, il va être biaisé. Bien sûr, il y aura du débat, il y aura des clivages, il y aura des tensions, mais on va encore caricaturer le camp hostile à la PMA. On va encore avoir droit aux menaces, les cathos intégristes et compagnie, non, qui représentent une infime minorité.
En l'occurrence, c'est pas le cas.
Non, mais ils représentent une infime minorité aujourd'hui, si vous écoutez bien les gens qui se prononcent sur ces questions de la PMA. Et c'est pas, ouais,
ça,
c'est pas les cathos intégristes.
Pour tous qui a tout foutu en l'air. C'était quand même Versailles, non, mais, qui descendait. C'était
ok,
pas...
Versailles, c'est pas que les cathos intégristes.
C'est ouais, fumant, c'est une façon de dire.
Mais
il y avait Saint-Germain-des-Prés.
Le problème, c'est là, et c'est ce que je voulais aussi dire tout à l'heure
à
Force Ouvrière. Le problème, c'est que tous ces débats-là, on sait qu'ils sont déjà pliés. Emmanuel Macron a une majorité. Cette majorité, oui, c'est la majorité Playmobil. Elle va voter à l'Assemblée nationale. Alors, il y aura un simili-débat, que j'appellerais même un simulacre de débat. On fera quelques petits bidules télévisés, etc., dans la presse, quelques tribunes. On laissera un petit peu parler les anti-PMA, mais rapidement, il y aura le rouleau compresseur derrière. Et en réalité, c'est ça qui épuise la démocratie.
RMC jusqu'à midi.
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Alain Marchal.
Encore un qui se prend pour le fils de Dieu.
Les grandes gueules.
Non, ça va chier.
Les grandes gueules, les GG, RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Étienne Liebig, Barbara Lefebvre, Monsieur Maxime Hiédo et Emmanuel Le Chip pour le menu de Radio Brunet, midi 14h sur RMC.
Le dernier Radio Brunet, la dernière, mon cher Alain.
En attendant,
lundi,
le retour.
Nouvelle émission avec le retour en force d'Éric Brunet, avec Laurent Neumann. Et donc pour le dernier Radio Brunet, en première partie à midi, et oui, ils sont anxiogènes. Ils sont pas très efficaces, ils sont coûteux à réparer. Les radars, mesdames et messieurs, ils sont dépassés, il faut les supprimer. Et puis en deuxième partie, et oui, ce sont les derniers jours des vacances, alors tout de suite, ça y est, il faut commencer à préparer les enfants. Eh bien non, les enfants, vous leur foutez la paix, vous les laissez profiter et vous ne leur imposez pas trop vite le rythme de la rentrée. D'accord, pas d'accord?
Ah oui, c'est-à-dire
le
genre,
32
il reste quelques jours, tu les remets un peu dans les cahiers de vacances.
Mais non.
C'est dès le premier jour des
vacances. Tu les laisses profiter des vacances.
Tu les laisses avec leur tablette.
Voilà, tu les stresses pas. La rentrée, ça doit être fluide.
Faire que ça à l'école, regarder les tablettes, donc autant les mettre maintenant avec les tablettes.
C'est pour ça qu'il fallait faire dès le premier jour des vacances.
32-16 pour en parler avec l'ami Manuel Le Chypre, Emmanuel Le Chypre, entre midi et 14h, donc dans Radio Brunet. Suite du GG et vous, nous allons revenir sur la terrible histoire du chirurgien pédophile du côté de Jonzac, avec les enquêteurs qui épluchent maintenant les 200 noms de son carnet. On parlait de. Alors qu'il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis, il avait pu continuer d'exercer sa profession de chirurgien. Donc on parlait de questions de transmission des dossiers, même de signalement de ces pédophiles. On réécoute Barbara Lefebvre et elle en parle avec Christophe.
Au Royaume-Uni, dans d'autres pays du monde, on a des fichiers de personnes pédophiles condamnées par la justice. Et cette question-là, elle est fondamentale parce que non seulement il faut une information du milieu professionnel, mais il faut aussi, et je suis désolée, une information du voisinage. La seule chose qui fonctionne, c'est les identifier et faire en sorte au moins d'informer le voisinage quand vous avez quelqu'un qui s'installe et qui a été condamné pour détention d'images pédopornographiques ou encore pire, condamné pour des actes pédophiles.
Christophe, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, Barbara vous écoute, c'est Christophe bonjour, de Lens.
Christophe. Oui. Bonjour Barbara. Alors déjà, je tiens à vous dire que j'aime beaucoup tout ce que vous faites comme action. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, sur cette, sur ce signalement, si, c'est important. Mais sur ce signalement, pour le voisinage. Alors, je suis pas du tout d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis concerné indirectement, mais j'ai un frère qui a été condamné il y a 22 ans. Donc, ça date maintenant. Mais bon, il a quand même été condamné pour une histoire de pédophilie, pour agression sexuelle. Il a purgé sa peine de 3 ans de prison. Il a été obligé de déménager, bien évidemment, parce que forcément, le voisinage, c'était plus possible qu'il reste dans le coin. Donc, il est parti vivre en Bretagne. Ça se passe très bien. Il a refait sa vie et tout va très bien. Maintenant, imaginez que le voisinage soit tout courant. Ben, il peut déménager n'importe où. Ça sera l'enfer pour lui. C'est une chasse à l'homme. Vous imaginez bien que les voisins, quand ils vont savoir qu'il a été condamné pour pédophilie, mais ça va être une horreur pour lui. c'est pas possible. On peut pas dire, il a été jugé, il a été condamné, il a fait sa peine. Il a pas besoin d'avoir une double, voire une triple peine, en étant signalé par le voisinage. Au contraire, on est bien d'accord, il faut faire le maximum pour les enfants, les protéger, que les autorités soient au courant, il n'y a pas de problème. Mais le voisinage, trop, c'est trop. Voilà.
Alors, Barbara.
Je comprends tout à fait, puisque vous partez d'une expérience personnelle, donc c'est toujours compliqué ensuite de faire des généralités. Là-dessus, je l'entends. Seulement, le cas de votre frère est extrêmement minoritaire dans la masse des pédocriminels. C'est-à-dire qu'en règle générale, n'importe quel avocat ou juge qui est spécialisé dans ces dossiers viendra vous expliquer que 90% des criminels condamnés pour pédophilie sont en réalité des incurables, c'est-à-dire que ce sont des multirécidivistes. À ce titre-là, j'entends bien ce que vous me dites concernant votre frère, mais je considère que cette possibilité d'identification doit rester la discrétion du maire, c'est-à-dire c'est le maire qui doit posséder dans la commune la liste des résidents, et les citoyens peuvent, s'ils le souhaitent ou pas, aller demander au maire de consulter cette liste pour voir si effectivement un de leurs voisins n'aurait pas déjà été condamné pour pédophilie. J'entends très bien votre discours et votre récit personnel, mais moi je pense à l'échelle nationale, à l'échelle globale, et je suis navrée, moi j'aimerais savoir si mes voisins ont été condamnés pour agression à caractère pédophile.
Ou autre, parce que à ce moment-là, parce que derrière on peut élargir aussi.
Je parle de la protection des mineurs, la protection des enfants.
S'il a été condamné pour homicide ou vol à main armée, à ce moment-là on peut élargir à toutes les condamnations.
Sur la question de la pédocriminalité. Parce que vous avez affaire... Non, parce qu'on a affaire à des prédateurs, le type qui braque, etc. C'est autre chose. Là, on a affaire à des prédateurs, à des pervers qui justement savent très bien se dissimuler leurs intentions criminelles en étant toujours les bons voisins. Il est gentil, il est discret, mais ceci, cela. Non, moi, je considère que compte tenu des dysfonctionnements que nous avons évoqués dans le débat, eh bien, il faut pouvoir disposer de ces informations.
Voilà, Christophe, la réponse de Barbara. Merci à vous. Dernier Gigi et vous. Une discussion avec Christophe du côté du Pas-de-Calais. On va partir un peu plus à l'est, un peu plus bas. Meurthe-et-Moselle. Francis, il est à Nancy. La PMA, extrait d'Étienne Ibig. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Étienne?
Qu'il faut dérembourser l'IVG et puis la pilule. Je m'en fous, personnellement. Il y a des tas d'autres choses tellement plus importantes dans ce pays. Ça rentrera dans les mœurs parce que c'est déjà comme ça tout autour de nous. Et je vais vous dire encore une chose. Si vraiment on pense à la sécurité sociale et au coût de la sécurité sociale, moi, je vous dis, il y a un point sur lequel on pourrait faire des économies, hein. C'est les cures.
Alors, Francis, bonjour.
Bonjour et bonjour, bonjour à tous.
Allez-y, Étienne vous écoute.
Alors Étienne, c'est dramatique. Que Maxime raconte beaucoup de bêtises par ignorance due à son nom, jeune âge, ou que Barbara...
Parole d'expert, visiblement.
Barbara, l'une des rares intellectuelles de vos plateaux, soit une engoncée dans son idéologie conservatrice, on le sait, donc on interprète avec ça, mais vous, qui êtes proche en tant que...
Éducateur.
Éducateur,
anthropologue,
proche de la sécurité sociale, comment vous pouvez vous laisser embarquer, je suis sûr que dans une minute et demie, on sera d'accord, comment vous pouvez vous laisser embarquer dans un débat lancé par deux députés qui veulent exister, qui veulent essayer de freiner la chute de leur parti, qui veulent relancer pour rameuter la manif pour tous, etc., etc. Comment vous pouvez vous laisser embarquer dans un discours comme ça? Le budget de la sécurité sociale, c'est, pour que les auditeurs se souviennent de quelque chose, on va dire c'est en gros 500 milliards d'euros. Mmh. 500 milliards d'euros, c'est un gâteau énorme qui intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts privés. La PMA, là-dedans, ou les cures, puisque vous avez...
C'est 195 milliards d'euros le budget de la sécurité sociale, c'est pas 500 milliards. Hein.
Non, c'est 500 milliards. Hein. Après, il y a la branche maladie, il y a la branche vieillesse, il y a la branche, etc. Il y a différentes branches. Mais enfin, bon, peu importe. Et c'est pas trop mal géré parce que le déficit est plutôt faible. Des députés, pour des raisons politiques, relancent
ça, Étienne l'a dit. Hein.
C'est exactement ce que
il
je
l'a
dis,
dit, Étienne.
Hein.
Donc, quelle est votre question?
Non, parce qu'il termine en disant, si on veut faire des économies, il faut faire, par exemple, des économies sur les cures. Donc, on est d'accord au départ, parce que, de manière, il se moque un peu en disant, bah, pourquoi pas dérembourser la pilule et puis l'IVG. Et puis, à la fin, il termine, donc, il déconne au début, et à la fin, il termine sérieusement en disant, d'ailleurs, on pourrait faire parce que, sur le cas de ses amis dimanche dernier, il en fait une généralité.
Ouais, c'est pas que c'est sur mes amis.
Oui, non, oui. Mais le budget des cures, la cure, c'est économiquement très favorable pour le pays, puisque ça ne coûte rien. Ma femme part en cure dans 2 semaines, elle est remboursée 320 euros, elle dépense 2200 euros.
Mais non,
euros.
Mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pas... Non, mais là, c'est peut-être un cas exceptionnel parce qu'elle a rien. Mais je vais te dire, il y a des tas de gens qui ont des maladies, soi-disant, par exemple, les polyarthrites, etc., qui partent en cure, avec, ou des asthmes, etc. C'est remboursé quasiment intégralement.
Et la sécurité sociale va rembourser leur restaurant, leur hôtel.
Attends. On discutait de la gestion de la sécurité sociale, et ces deux députés, je suis d'accord avec toi, c'est peanuts, la question de la PMA, et ils insistaient sur le truc. Je dis, moi, que s'il y a des économies à faire, on peut peut-être regarder. Je trouve, par exemple, pas normal. Est-ce que tu trouves normal que madame ait de la polyarthrite rhumatismale et parte en cure, et que, comme par hasard, monsieur a aussi un problème d'articulation et qu'il parte en cure avec sa femme? Comme ça fait 3 semaines de pré-vacances tranquille. Je pense que c'est géré. Je pense. Alors, je vais te dire un truc. Je pense que ces cures, elles font vivre des tas de villes en France qui, sans ces curistes, crèveraient tout simplement. Et donc, on a tout intérêt à continuer de faire vivre, et qu'il y a des arrangements entre certainement les maires ou les députés de ces régions et la Sécu pour que ça continue de vivre. Parce que sinon, s'il y a plus ça, il y a plus rien. Donc, je le comprends. À la limite, c'est de la redistribution de richesses.
Bon, on se retrouve. Salut, Francis. Désolé, de ne pas vous redonner la parole. On se retrouve lundi.